Antoine Robitaille.
Antoine Robitaille.
Une entrée privilégiée dans le Parlement.
Ce que les ministres n'ont pas voulu dire, Antoine va vous le dire. Cultivez votre savoir. Comprenez les décisions. La nouvelle façon de parler politique.
Là-haut sur la colline.
Alors, à Ottawa, une commission d'enquête fait actuellement des troublantes découvertes sur l'ingérence étrangère, notamment chinoise, dans de récentes élections fédérales. Mais le Québec, lui, est-ce qu'il se prémunit contre des potentielles intrusions dans ses processus électoraux? On en parle avec Pascal Paradis, député péquiste de Jean Talon. Bonjour.
Bonjour, Monsieur Robitaille.
Alors, oui, c'est ça, vous avez posé la question, je pense, il y a quelques minutes, là, on est jeudi, au moment où on se parle, en étude de crédit au ministre de la Sécurité publique sur les ingérences étrangères. Qu'est-ce que vous avez eu comme réponse?
Eh bien, j'ai eu comme réponse que notre gouvernement ne semble pas s'en occuper et qu'en réalité, pour protéger nos processus politiques et électoraux au Québec, il s'en remet au gouvernement fédéral. Alors, vous l'avez mentionné, là, on a des révélations troublantes actuellement dans une commission d'enquête au Canada. On apprend que partout dans le monde, les gouvernements s'inquiètent et veulent se prémunir contre des cyberattaques, contre de l'ingérence étrangère. Et là, ce qu'on apprend, au Québec, il n'y a pas de stratégie, ce n'est pas une préoccupation du ministre de la Sécurité publique, qui semblait même surpris avec son équipe des questions qu'on lui a posées à cet effet-là. Bon, sur la partie cyberattaque, ensuite, il m'a référé à son collègue Éric Kerr, le ministre de la Cybersécurité.
Là-dessus, je pense qu'il y a pas mal de... Là-dessus, je pense qu'il y a pas mal de politiques qui ont été établies, je pense, sur les cyberattaques.
Oui, puis là, d'ailleurs, je pense que l'étude des crédits avec le ministre Éric Kerr a lieu au moment où on se parle. Alors, c'est mon collègue Joël Arsenault qui est à cette étude-là, et je peux vous dire que c'est une question qui va nous préoccuper aussi. Mais quand même, après quelques minutes d'échange avec le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardet, je lui ai demandé, parce qu'il me disait... Non, c'est le fédéral. Non, on n'a pas de ressources particulières. On n'a personne qui travaille là-dessus. On n'a pas d'analyse d'impact. On n'a pas de plan. Et là, je lui dis, oui, mais est-ce que vous convenez avec moi que c'est une question de sécurité publique? Et ça, il a fini par l'admettre. Et en tout cas, nous, du Parti québécois, on va continuer à travailler sur cette question-là parce qu'on considère qu'il est de la responsabilité du Québec d'avoir un plan, de se préoccuper. Ben oui, de...
Après tout, les ingérences étrangères, c'est la GRC qui s'en occupe.
Oui, mais
donc,
le système...
Donc, la gendarmerie royale du Canada, ça relève du fédéral. Je fais un peu l'avocat du diable, mais il me semble qu'on peut vous répondre ça sans trop passer pour, indolent.
Bien, il y a deux choses. D'abord, le système électoral québécois, les processus politiques québécois sont de la responsabilité du Québec. Et là, ça vient toucher au cœur de notre démocratie. Donc, je pense que le Québec, en fait, nous, on est convaincus que le Québec doit réfléchir sur cette question-là, doit se doter d'un plan. Ensuite, sur la question de l'ingérence étrangère, je pense qu'on peut certainement dire que le Québec a toujours projeté ses propres compétences, projeté ses propres juridictions à l'échelle internationale et qu'il devrait y avoir une préoccupation claire du gouvernement du Québec quant à ces questions-là. Et je le redis, pour nous, c'est une révélation, ça compte parmi les révélations les plus étonnantes des deux dernières semaines d'études de crédit, où on a la chance vraiment d'aller au fond des choses avec les différents ministères, d'apprendre
Qu'est-ce que ça vous fait craindre, M. Paradis? Est-ce que vous pensez que parce qu'à Ottawa, on a un gouvernement qui s'en est pas occupé, qui regarde ça sans trop se stresser, donc c'est ça, est-ce que c'est inquiétant à cause de ça ou?
Ce qui se passe à Ottawa nous donne des indications. C'est-à-dire, est-ce que peut-être on n'avait pas donné la pleine mesure à ce phénomène-là? Est-ce qu'on ne l'avait pas considéré dans toute son ampleur? C'est en filigrane ce qui semble ressortir. Maintenant, il y a beaucoup de documents qui indiquent là, qu'il y avait des menaces réelles, des menaces sérieuses. Et là, qu'on apprend du côté du Québec, c'est qu'on n'a pas l'air de réfléchir à cette question-là. Là, je vous le dis, j'ai posé des questions. Est-ce que quelqu'un travaille là-dessus? Est-ce que quelqu'un réfléchit là-dessus? Est-ce qu'il y a des ressources financières? Non. Est-ce que vous avez un plan? Non. Est-ce que vous avez des informations particulières? Non. Et pourtant, là, dans la commission fédérale, il y a des informations qui ressortent. Moi, je lui ai demandé,
Parce mais que, rien même, sur le Québec dans la
C'est ça. Moi, je voulais avoir cette information-là de la part du ministre François Bonnardel. J'ai dit, est-ce que vous avez des informations particularisées? Est-ce qu'il y a des menaces ou des réelles ou avérées ou présumées? Sa réponse a été non. Mais je pense qu'il va falloir approfondir la question. C'est est-ce qu'il n'avait pas d'informations ou est-ce qu'il confirme qu'il n'y a pas de menaces? Je pense que c'est une question qu'il faut creuser.
Vous, avez-vous déjà entendu parler de possibilité d'ingérence au Québec, précisément, dans les élections québécoises?
Non, moi, je n'ai pas d'informations particulières là-dessus, mais c'est pour ça que nous, on voulait avoir cette information-là, parce que ça nous semble une question éminemment importante pour notre démocratie actuellement. Les gouvernements démocratiques de la planète sont en train de réfléchir à cette question-là. Ce qu'on veut, c'est prévenir, d'abord et avant tout. Et là-dessus, je pense qu'il devrait y avoir une stratégie gouvernementale québécoise pour dire, ben voici, on est en 2024 et en 2024, maintenant, ça fait partie des risques auxquels on est confronté. Ayons une stratégie, ayons une réflexion. Et je pense qu'elle peut même être multiministère.
La question de l'ingérence étrangère, elle est très ancienne au Canada. Je vous reporte dans les années 60, après le Vive le Québec libre. Le Canada est très inquiet des possibles ingérences françaises dans les systèmes électoraux, notamment au Québec. On craignait que la France finance carrément le parti auquel vous faites partie, le Parti québécois. Il y a toutes sortes d'informations qui ont circulé là-dessus. Et à l'époque, le père Trudeau, lui, il craignait beaucoup ça. Donc, alors que bon, la France c'est une démocratie. Moi, j'ai fait un documentaire et l'affaire Morin, de Claude Morin, est liée à la possibilité d'une ingérence étrangère. Or, j'écoutais votre chef, Paul Saint-Pierre Plamondon, récemment, dire qu'il souhaitait une participation active de la France. Dans les affaires québécoises pour aider finalement le projet de souveraineté, est-ce qu'il n'a pas lui-même invité la France à s'ingérer dans nos affaires?
Oui, mais là, attendez, là, M. Robitaille, ce sont deux choses complètement différentes. Oui, Paul Saint-Pierre Plamondon parle de l'amitié profonde qui existe entre la France et le Québec, qui est historique compte tenu d'une grande partie de l'histoire commune, en fait, que nous partageons, et il indique, comme ça a toujours été le cas pour les gouvernements du Parti québécois, et pour le Parti québécois généralement, c'est-à-dire que nous espérons que la France va continuer à accompagner le Québec, quels que soient nos choix dans le futur, et c'est pas de l'ingérence.
Non, je sais, mais dire que la France doit participer activement, si je me souviens bien, c'était ses propos. Est-ce que c'est pas justement dépasser le simple accompagnement?
Là, on parle du côté politique. On parle de cette question du premier ministre Attal qui vient ici et qui nous a livré, vous l'avez entendu, un discours senti dans lequel il renouvelle les intérêts communs de la France et du Québec en matière culturelle, en matière de laïcité, en matière de développement de la francophonie, d'innovation économique à l'intérieur de la francophonie, et pour nous, évidemment, de cet accompagnement de la France dans les choix que nous espérons voir le Québec prendre. Ça, c'est une chose. Là, ce dont on a parlé cette semaine, la semaine dernière, avec le ministre de la Sécurité publique, c'est une ingérence illégale dans les processus politiques, dans les processus électoraux. Là, on parle d'utilisation d'écoute électronique, de cyberattaque, de disruption du système. C'est de ça dont on parle. Donc, ce sont deux choses vraiment bien distinctes. Et sur cette deuxième partie-là, c'est là que les gouvernements occidentaux actuellement, en fait, les gouvernements démocratiques, donc qui ont un système électoral qui repose donc sur la transparence et sur le fait que le vote est vraiment bien calculé, vraiment bien compté, vraiment bien transmis. C'est là, c'est de ça dont on parle.
Et j'insiste, dernière question sur ce sujet-là, mais demander à un autre pays d'agir activement pour un projet politique interne, est-ce que c'était pas un impair diplomatique? Vous qui êtes un internationaliste, très expérimenté.
Oui, ben, et de fait, là, il s'agit de relations diplomatiques, de relations internationales entre la France et le Québec où Paul Saint-Pierre Plamondon exprime, réitère en fait ce vœu maintes fois exprimé par les chefs de notre formation politique historiquement sur cette volonté de garder cette relation amicale. Ça n'a rien à voir vraiment avec de l'ingérence et ce n'est pas se mêler de politique interne française. Vous m'avez peut-être entendu d'ailleurs le jour de la visite de M. Attal, je dis écoutez, là, ne nous mêlons pas de politique française parce qu'il y avait...
Étienne Grandmont de Québec solidaire qui avait commis cet impair-là.
Bon, mais ce qu'on appelait évidemment à l'idée...
Il avait dit que M. Attal était trop de droite.
Et là, moi, je rappelais cette coutume très importante lorsqu'il y a une visite diplomatique qu'on s'élève toutes et tous ensemble ici pour dire c'est un accueil de l'Assemblée nationale fait au premier ministre de France. Donc, c'est deux questions là, vraiment, vraiment distinctes.
Sur la représentation du Québec en Israël maintenant, le bureau, on en parle depuis des mois, c'est problématique depuis le 7 octobre et ses suites. Vous avez comme rejoint Québec solidaire, si je ne m'abuse, en disant qu'il faudrait faire une pause dans ce projet-là.
Bon, la position de Québec solidaire appartient à Québec solidaire. À moins que je ne m'abuse, Québec solidaire demande d'annuler ou de ne pas procéder à l'ouverture
du bureau du Québec.
Nous, ce qu'on dit, c'est qu'actuellement, il y a un conflit armé très grave qui fait rage, qui cause des dizaines de milliers de victimes civiles, selon les rapports des Nations Unies, acceptés et rapportés par les Nations Unies. Ce n'est pas le temps, en termes de relations diplomatiques et de relations internationales, de procéder, de continuer à l'ouverture d'un bureau du Québec à Tel Aviv comme si de rien n'était. Et nous, notre position, c'est de suspendre, et c'était d'ailleurs la position initiale de la ministre des Relations internationales, Martine Biron, à l'automne. Au départ, elle a dit, écoutez, c'est pas le temps d'aller ouvrir un bureau du Québec à Tel Aviv. Et là, elle nous a dit, hier, en étude de crédit, que là, elle considérait... que la situation s'était un peu calmée, que ça rendait peut-être possible des allers-retours. Et là, c'est pas un aller-retour qui s'est passé. Le directeur du bureau, la personne qui est nommée pour occuper la fonction officielle la plus élevée de la diplomatie québécoise dans ce bureau-là, est allé pendant un mois, pendant que la ministre Biron a affirmé à l'Assemblée nationale le contraire. Et hier, elle s'est emmêlée dans ses explications. Et là, ça soulève de très sérieuses questions. Et surtout, elle continue à dire... Écoutez, nous, on procède à l'ouverture de ce bureau-là et elle le remet toujours aussi sur le plan commercial. On va là, tu sais, pour développer nos relations commerciales.
Ben oui.
Ce n'est pas le temps de faire ça et ça lance un signal. En termes de relations internationales, vous l'avez évoqué, là. J'ai quand même œuvré 20-25 ans dans ce domaine-là.
Ben oui.
Actuellement, la prudence, ce serait de dire chaque geste, chaque parole compte. C'est pas le temps actuellement. On garde la personne à Montréal. On attend de voir comment ça va évoluer. Je le rappelle, c'était la position initiale d'ailleurs de la ministre. Et ce n'est pas le temps de procéder parce que là, en procédant, on lance un signal.
Je lisais un communiqué émanant de la communauté juive aujourd'hui qui disait être choqué de voir que certains députés ont décidé de n'avoir aucune critique envers des représentants dans des pays au bilan plus que discutable en termes de droits humains comme la Chine et Cuba. Est-ce que ça peut être un bon argument, selon vous? C'est vrai qu'on accepte d'aller dans des pays qui ont des bilans épouvantables.
Là, on parle d'abord, c'est important encore une fois de distinguer ce qu'on pense de la politique interne, de procéder à l'ouverture d'un bureau du Québec pendant qu'il y a un conflit armé qui fait l'objet de plusieurs résolutions des Nations Unies.
Mais en Chine, il y en a des conflits armés en Chine.
La question est combien de délégations du Québec, combien de bureaux du Québec ont été ouverts pendant un conflit armé, alors qu'il y a des victimes civiles sur le terrain et qu'il y a des résolutions des Nations Unies qui condamnent ce conflit-là.
En Chine.
On ne parle pas d'ouvrir un bureau du Québec actuellement dans ces zones-là. Là, celui dont on parle,
on l'a ouvert quand même.
C'est celui de Tel Aviv dont on procède à l'ouverture pendant l'offensive armée, alors que la prudence, ce serait de dire, pour l'instant, attendons. Et quelle est l'urgence? Qu'on y réfléchisse, là.
Oui.
Le Québec entretient des relations que nous considérons extrêmement importantes de longue date, depuis des décennies avec l'État d'Israël. Elles sont étroites, ces relations-là. Elles sont constructives. Elles sont importantes. Et ça s'est produit depuis toutes ces décennies-là sans qu'il y ait un bureau du Québec à Tel Aviv. Quelle est l'urgence actuellement d'aller ouvrir ce bureau à Tel Aviv. Quel est l'objectif? Pourquoi on a envoyé le directeur de bureau à Tel Aviv, ou en tout cas en Israël, parce qu'on connaît pas les détails de son déplacement. On sait qu'il a été pendant un mois en Israël, alors que la ministre prétendait le contraire. Est-ce que c'est parce que la ministre trouvait que c'était pas une si bonne idée que ça, qu'il soit en Israël, parce que c'est ce qu'elle avait dit au départ? C'est ça la question. Donc là, il y a plusieurs enjeux. C'est la transparence de la ministre par rapport à l'ouverture de ce bureau-là, la séquence, mais c'est ensuite aussi l'opportunité d'ouvrir à ce moment-ci et surtout la prudence qui devrait guider la ministre.
Est-ce qu'il faudrait reconsidérer nos investissements en Israël? Il y a été beaucoup question de ça hier lorsque la Caisse de dépôt est venue en étude de crédit. Est-ce qu'il faudrait donc annuler, désinvestir en Israël pour protester contre la façon dont finalement on traite les Palestiniens à Gaza?
C'est que là, c'est justement le temps de faire preuve de prudence, de mesure, de nuance. Ce n'est pas le temps de parler de commerce international alors qu'il y a un conflit armé qui fait rage.
Donc oui ou non? Qui fait, pour désinvestir?
C'est, aujourd'hui, c'est le temps de se dire qu'est-ce qui se passe avec le conflit armé? Quelle est la position du Québec par rapport au conflit armé? Et la position du Québec, ça devrait être celle de la prudence, de dire que là, l'enjeu numéro un, c'est celui de l'ouverture du bureau du Québec à Tel Aviv. C'est le temps de la
prudence.
Donc,
que la Caisse de dépôt investisse, mettons, dans McDonald's Douglas, dans une compagnie qui construit des avions qui peuvent servir là-bas à bombarder des populations civiles. Est-ce que ça, c'est est-ce qu'on devrait désinvestir ou non?
J'étais à cette étude de crédit aussi. Je pense que c'est une bonne chose que la Caisse de dépôt ait dit qu'elle n'a pas l'intention d'investir dans ce type d'industrie-là. Mais il y a toute la question des investissements indirects, c'est-à-dire que c'est pas un investissement qui est effectué directement dans une compagnie qui produit des armes ou qui vend des armes, mais qui vend des composantes ou qui est indirectement lié. Et ça, cette question-là, on invite la Caisse de dépôt à continuer à travailler sa politique de responsabilité sociale des entreprises. Ah. Elle a des nouvelles politiques qui se développent.
Donc, on fait attention, on investit.
Il faut faire très attention. Moi, j'ai posé des questions. Alors, toute la question de l'utilisation des investissements dans des zones de conflit, comme celui actuellement en Israël, il faut faire la lumière.
Est-ce qu'il faut pas investir pour aider les Ukrainiens? Est-ce qu'il faut pas investir dans l'armement?
Bon, vous m'amenez sur différents terrains, mais là, l'Ukraine actuellement est victime d'une guerre d'agression par la Russie. Vous savez que le Québec, ici, on a adopté des motions qui sont en faveur de l'Ukraine, de la continuation de l'aide à l'Ukraine. J'ai moi-même parlé de ça à l'Assemblée nationale. Le Canada appuie l'Ukraine. C'est un autre enjeu. C'est la possibilité
l'appui
dont l'Ukraine a besoin. Pardon?
Dans ce cas-là, les investissements seraient peut-être, acceptables.
Ben écoutez, le Canada actuellement est un des pays qui fournit donc une aide militaire. Et là, ce qu'il faut aider, c'est aider le peuple ukrainien à défendre son territoire. Et vous le savez, là, on parle de crimes de guerre, on parle de crimes d'agression.
Mais à Gaza aussi.
Dans mon ancienne vie, vous le savez, j'ai participé à des projets. Donc, l'organisation que je dirigeais a un projet en Ukraine. Et là, on parle de victimes, de viols collectifs, de tortures, de crimes de guerre. On demande donc des moyens pour être capable de se défendre.
Peut-être que on pourrait dire il faudrait qu'on aide les Palestiniens à se défendre.
Il y a tous ces enjeux-là. On est dans une période de conflit armé avec plein de questions importantes qui se posent et notre gouvernement s'entête à continuer à vouloir ouvrir un bureau, une représentation dont on dit qu'un de ses principaux objectifs, c'est le développement des relations internationales, comme si de rien n'était. Là, c'est là l'enjeu qui nous occupe et nous, notre position, c'est prudence, faisons la bonne chose, c'est-à-dire suspendons le processus de déploiement de ce bureau-là en attendant de voir comment évolue le conflit. Puis ce qu'on espère, en fait, c'est qu'il y ait un cessez-le-feu. Vous savez, on l'a appris à plusieurs reprises.
Oui.
Que l'aide humanitaire puisse arriver à Gaza. Là, on parle de centaines de milliers de personnes en famine, d'aide humanitaire qui n'arrive pas.
Il faut s'arrêter, malheureusement. Je suis très, très content de vous recevoir à l'émission. Discussion intéressante. Puis on n'a même pas eu le temps de parler de transport à Québec, qui était un autre gros sujet dans votre cours là, comme député de Jean Talon.
Oui, très concerné. Alors, c'est un rendez-vous pour une prochaine fois.
Absolument, absolument. Merci beaucoup.
Au revoir.